La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête.
Et au menu de notre club cet après-midi, le festival de géographie de Saint-Dié dans les Vosges, une exposition sur la santé des mineurs du Pas-de-Calais, le Monde Festival avec entre autres une question, à quoi sert un musée? Et puis un labo Origins, je vous présente mes invités dans un instant. Agnès Fèvre, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science cet après-midi, un lien peut-être entre les produits ménagers et l'obésité chez les bébés.
Oui, un lien qui n'est pas encore bien établi, mais des chercheurs canadiens ouvrent la voie en montrant que l'utilisation fréquente de détergents ou désinfectants pourrait altérer le microbiote et favoriser la prise de poids, rien que ça. L'éclairage dans un instant du biologiste cellulaire Hervé Blottière.
Et c'est Étienne Bertin qui réalise aujourd'hui ce club préparé par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Voilà, je salue mes invités et ils sont nombreux. Nathalie Bondil, Franck Nouchi, Virginie Malolepski, Marie-Odile Monchicourt et Sophie Bécherel. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue.
Bonjour.
Franck Nouchi, Le Monde Festival 5e édition. Eh bien, c'est tout ce week-end dans différents lieux parisiens avec le thème cette année qui se résume en un mot,
aimer.
Et c'est beau, hein.
Voilà, ouais. J'espère que ça vous plaira. Ça commence ce soir à 20h au Gaumont Opéra avec Une affaire de famille, le film de Kore-eda qui a eu la Palme d'Or à Cannes cette année, ouais, en présence de Kore-eda.
Alors film, débat évidemment, discussion avec les chercheurs. Et parmi les nombreux sujets qui seront discutés, un débat avec cette question, à quoi sert un musée? Vous allez y participer, Nathalie Bondil, en tant que directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mmh. Une façon sans doute pour le public de découvrir autre chose qu'un simple lieu finalement de contemplation, hein. C'est pas que ça un musée.
Oui, parce qu'en fait, le musée, c'est le lieu où on adresse toutes les problématiques de culture au quotidien. Donc, c'est un lieu de vecteur de progrès social.
Et on va voir comment on y réfléchit justement avec vous dans un instant. Sophie Bécherel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Votre coup de cœur cette semaine va nous emmener dans le Nord.
Pour une exposition qui s'appelle Ouille, Ouille, Ouille. Le premier Ouille ayant un H. Et oui, voilà. Car ça se passe au centre historique minier de Leeward dans le Nord. Et donc, pour nous en parler, Virginie Malolepsi est avec nous. Et en fait, c'est un sujet avant tout historique parce que vous avez puiser dans votre fond, c'est ça, dans vos collections, pour nous parler de la santé des mineurs.
Nous avons plongé dans nos fonds d'archives et nos collections d'objets du musée pour expliquer effectivement au public les questions de santé des mineurs, qui ne sont pas seulement des questions de maladie, mais aussi d'institutions et de méthodes mises en place pour prévenir des maladies des ouvriers.
On ira visiter l'exposition donc avec vous. Marie-Odile Monchicourt, de retour dans le club.
Ah oui,
et vendredi prochain, Courbevoie. Ce sera un nouveau Labo Origins, ce spectacle scientifique que vous organisez avec un casting d'enfer vendredi prochain.
Ouais. Je rappelle, puisqu'on parle beaucoup de festival, que c'est dans le cadre du festival Atmosphère qui va durer 4 jours. Et alors effectivement, ce Labo Origins, bah oui, ils sont tous venus. Mes copains.
Amezen, Étienne Klein, Emma Lacloune, Pierre-Henri Guyon, Marc Lachaiseret, Michel Spiro, voilà, Jean-Pierre Bibring, entre autres.
Hein. Oui, entre autres. Non, c'est un bonheur extraordinaire. Il faut que vous veniez tous. Hein. La salle est grande.
On sera là.
En plus, c'est gratuit.
Et on va en parler tout à l'heure. Et puis, nous irons également dans les Vosges à Saint-Dié pour le lancement du Festival de Géographie. Voilà pour le sommaire copieux de ce club. Et on se retrouve tous dans un instant avec les auditeurs qui nous rejoignent également avec les messages. Agnès Fèvre, à la une de la science, une nouvelle étude qui nous plonge dans l'incroyable écosystème du microbiote chez les bébés cette fois.
Oui Mathieu, il s'agit de comprendre au départ si l'utilisation de produits ménagers augmente ou non les risques d'obésité chez l'enfant en bas âge. Ces produits, parfois de redoutables antibactériens, pourraient perturber la flore intestinale. Et dans le journal de l'Association médicale canadienne, une équipe de chercheurs identifie des altérations chez certaines familles de bactéries qui peuplent notre intestin. On en parle avec vous Hervé Blottière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche à l'INRA et vous êtes en charge d'une unité de recherche sur l'écosystème intestinal humain au sein de l'Institut de microbiologie de l'alimentation au service de la santé, Micalis. Alors Hervé Blottière, qu'est-ce qui retient votre attention dans cette étude?
Alors, ce qui retient mon attention dans cette étude, c'est qu'on insiste à nouveau sur les 3 premières années de la vie qui sont essentielles dans le développement du système immunitaire, du système métabolique et dans la colonisation du tube digestif de l'ensemble de l'organisme, pas seulement le tube digestif d'ailleurs, par les micro-organismes, par la flore, ou ce qu'on appelle plus maintenant le microbiote.
C'est pendant ces trois premières années que tout se forme, justement ?
Voilà, on appelle ça les 1000 premiers jours. On considère que, puisque le bébé est encore considéré comme stérile à la naissance, que pendant ces trois premières années, le microbiote va coloniser, s'installer, et puis définir ce qui va être notre microbiote à l'âge adulte.
Donc qui va déterminer beaucoup de choses, hein, qui va influer sur...
Oui, donc on est en train de se rendre compte justement de l'importance de ce microbiote dans notre santé à l'âge adulte. Mais comme tout est déterminé pendant ces trois premières années de la vie, il faut comprendre ce qui se passe et comment potentiellement, en impactant sur la colonisation, on peut impacter sur l'avenir du bébé.
Et ça commence vraiment à l'instant zéro de la naissance ou pas ?
Oui, en fait... Alors, il y a une petite controverse parce qu'il y a des gens qui disent qu'il y aurait un microbiote placentaire.
Ah.
Je dis il y aurait, c'est controversé. Il y a des techniques, il y a des gens qui disent que c'est des contaminants, etc. Mais en tout cas, tout commence vraiment au moment de la naissance, soit par voie basse avec une colonisation par le microbiote vaginal ou périvaginal, ou quand la naissance se fait par césarienne, par le microbiote de la peau en particulier, qui va commencer à coloniser. Puis après. C'est toute une aventure.
D'où l'importance de l'environnement, justement.
Tout à fait.
Et dans cette étude, alors, les chercheurs disent que le recours fréquent à des détergents ou désinfectants ils démontrent qu'ils font grimper les taux de l'acnospiracée. Alors ça, c'est une famille de bactéries importantes, parmi les milliards qui peuplent notre intestin.
Les lactospiracées, ça fait partie des bactéries qu'on retrouve fréquemment, normalement chez les enfants. Dans ces études, ce qui montre, c'est qu'il y a peut-être une légère augmentation dans leur nombre. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, on a un écosystème et les lactospiracées font partie de l'écosystème. Elles sont pas toutes seules. Et
c'est quoi? C'est une poussière dans...
On dit qu'on va avoir 300, 500 espèces différentes à l'âge adulte. Donc, on va dire que c'est parmi celles-là. Et dans les lactospiracées, il y en a qui sont vraiment considérées comme des bonnes bactéries et puis d'autres un peu moins bonnes. Donc, et là, dans les détails de l'article, ils vont pas vraiment à creuser profondément quelles sont les espèces bactériennes, puisqu'on sait que maintenant, tout ce qui est important, c'est de descendre au niveau de l'espèce, même voire encore plus bas au niveau des souches. Donc,
En tout cas, il faut un lien entre l'augmentation de ces bactéries,
oui,
l'usage de plus en plus fréquent de désinfectants et détergents, et aussi l'indice de masse corporelle des enfants un an plus tard, un an, deux ans, trois ans plus tard, quand ils ont grandi.
Alors, là, à nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y avait déjà dans des travaux chez la souris qui montraient que cette période essentielle, cette fenêtre où pendant laquelle le microbiote se fait, va impacter sur le devenir, donc sur les maladies métaboliques. Ça a été montré chez la souris, sur des maladies chroniques intestinales autres. Ça a été aussi montré chez la souris. Chez l'homme, c'est quand même la première fois qu'on titille le rôle des détergents et le rôle de l'hygiène.
Quand vous dites titiller, c'est-à-dire qu'il faut être précautionneux par rapport au résultat de l'étude.
C'est une étude qui fait appel à des méthodologies qui sont pas celles qu'on utilise à l'heure actuelle.
Ouais.
Et puis quand on regarde les statistiques, on est quand même vraiment à la limite de la significativité.
Donc attention au gros titre détergent obésité chez l'enfant, c'est pas ça qu'il faut entendre du tout.
Alors il va falloir continuer de nettoyer.
et dans notre domaine, on considère qu'une étude c'est bien, mais il faut qu'elle soit corroborée par d'autres études.
Ouais.
Et puis un deuxième point important, c'est qu'il faut aller vers la mécanistique, comprendre ce qui se passe. La corrélation c'est bien, mais il faut montrer la causalité. Et je prends souvent l'exemple des cigognes et de l'augmentation des naissances en Alsace. C'est vrai qu'il y a eu une belle corrélation entre l'augmentation des cigognes et l'augmentation des naissances. Je pense pas qu'il y ait vraiment un lien.
Et quand vous dites titiller aussi, ils n'ont pas bien identifié quels composants des produits ménagers pouvaient altérer le microbiote.
Oui, grosso modo, ils mélangent tout, y compris les désodorisants que certaines personnes utilisent.
Oui, c'est ça. Vous désinguez une publication en 5 minutes.
Ce qui est important, c'est que ça souligne l'importance de ces trois premières années de la vie et une hygiène excessive.
Ouais.
Vous savez qu'il y a des vieux travaux si vieux d'ailleurs, qui démontrent que si l'enfant est élevé à la campagne, en présence d'animaux, etc., il aura moins de pathologies. De type allergie, asthme, etc., que s'il est élevé en ville dans un milieu très propre. Donc ça va dans le même sens.
L'important, c'est de blottir du microbiote dans les trois premières années de l'enfant. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de cette étude pour le savoir ?
Je dirais non. Ça, c'est un argument supplémentaire pour dire soyons vigilants à ce qu'on fait, mais attention à ne pas trop culpabiliser les gens non plus.
Une dernière question, Agnès.
Oui, de plus en plus d'études cherchent à établir des liens entre microbiote et prise de poids. L'obésité infantile, justement, qui tend à augmenter dans le monde, c'est quelque chose qui est encore très compliqué à comprendre.
Oui, définitivement, puisque il y a tellement de critères qui rentrent, enfin de paramètres qui rentrent en jeu. Et donc, ce qu'il faut, grâce à cette étude, insiste à nouveau là-dessus, faut tenir compte du microbiote et en plus de tous les autres facteurs environnementaux, alimentaires, etc.
Donc attention au gros titre, et aux conclusions un peu hâtives, en tout cas sur ces liens. Merci beaucoup Hervé Bleutière d'être venu aujourd'hui à la Ligne de la Science. Agnès,
si vous voulez.
Bon week-end et on se retrouve lundi. Allez, le club dans un instant avec nos invités.
Laisse-moi guider tes pas dans l'existence, laisse-moi la chance de me faire aimer. Viens comme une enfant au creux de mon épaule, laisse-moi le rôle de te faire oublier. Le temps qui va, le temps qui sommeille, le temps sans joie, le temps des merveilles, le temps d'un jour, temps d'une seconde, le temps qui court ou celui qui gronde. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut nôtre. Le temps passé, celui qui va naître. Le temps d'aimer et de disparaître. Le temps des pleurs, le temps de la chance. Le temps qui meurt, le temps des vacances. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps glorieux, le temps d'avant-guerre. Le temps des jeux, le temps des affaires. Le temps joyeux, le temps des mensonges. Le temps frileux et le temps des songes. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps, le temps, le temps et rien d'autre. Le tien, le mien, celui qu'on veut l'autre. Le temps des crues, le temps des folies. Le temps perdu, le temps de la vie. Le temps qui vient jamais ne s'arrête. Et je sais bien que la vie est faite du temps des uns et du temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps des uns et le temps des autres. Le tien, le mien, peut devenir nôtre. Le temps. Le temps. Le temps.
Voilà, dans le cadre de l'hommage national aujourd'hui à Charles Aznavour, à l'instant, c'était le temps.
La tête au carré, le club, sur France Inter.
Dans notre club cet après-midi, le Monde Festival avec ce thème Aimer, une exposition sur la santé des mineurs du Pas-de-Calais. On ira également à Saint-Dié-des-Vosges pour le coup d'envoi du Festival International de Géographie et puis un labo Origins. Et vous pouvez nous rejoindre bien sûr avec vos messages, toutes vos questions à nos invités, franceinter.fr et le mot-clé la tac sur les réseaux sociaux. On va commencer donc avec le Monde Festival. C'est aujourd'hui et pendant tout le week-end. Franck Nouchi, vous êtes coordinateur justement pour le journal Le Monde de ce festival. Cinquième édition, c'est ça?
Cinquième édition, toujours au même endroit, dans les deux opéras à Paris, à l'Opéra Garnier et à l'Opéra Bastille, au Théâtre des Bouffes du Nord et au Gaumont Opéra, dans la grande salle.
Quelle a été l'idée au départ? Comment un quotidien comme Le Monde se dit, tiens, on va créer notre festival, nous aussi?
Au fond, l'idée, c'était d'aller à la rencontre du public du monde, des lecteurs du monde, mais pas simplement, d'inciter les gens à venir débattre, à venir rencontrer les journalistes du monde et surtout à venir rencontrer les personnalités que les journalistes du monde avaient envie de leur présenter, du monde entier.
Donc c'est quoi? C'est une sélection finalement des grands thèmes de l'année? Comment vous procédez avec l'équipe pour choisir les sujets?
C'est la rédaction du Monde qui fait la programmation, qui nous propose des thématiques, qui nous propose des invités. Après, on essaye d'organiser tout ça comme une espèce de grand puzzle. Et finalement, ça donne une programmation sur deux jours et demi, une quarantaine de débats, des spectacles, des films. Voilà, on s'amuse beaucoup à préparer tout ça.
Et tout va s'articuler donc autour de ce mot aimer, c'est ça ?
Pas tout, mais une bonne partie. Chaque année, on essaye de trouver comme ça un thème. L'an dernier, c'était rêver. L'année d'avant, c'était changer le monde. Et cette année, on a eu envie, allez savoir pourquoi, de prendre aimer, le verbe aimer. Il n'y a rien de plus beau que le verbe aimer.
Alors si on prend ce mot et si on prend la science aussi, de quoi on va pouvoir entendre parler à l'occasion du festival ?
On va entendre parler des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut aimer malgré les réseaux sociaux, à cause des réseaux sociaux ? Est-ce que les robots s'aiment entre eux ? Est-ce que les animaux s'aiment entre eux ? Voilà, on va décliner ça de toute la manière possible. On ne va pas oublier les humains non plus. On va en parler beaucoup.
Avec beaucoup d'invités, des neurosciences également. Comment donner aux enfants l'envie d'apprendre
Voilà, ça va être un dialogue avec Philippe Mérieux, le pédagogue, et Stanislas Dehaene, le neurobiologiste. Donc je pense que, arbitré par Blanche Lockman, qui est la présidente de la Société française des agrégés, je pense que ça va être intéressant parce que c'est rare de les voir tous les trois comme ça, confronter leurs idées à propos de cette simple question, comment donner envie et comment donner envie d'aimer, d'apprendre aux enfants.
Alors il y a le rôle des technologies, alors j'aime beaucoup ce sujet également, avec un des dirigeants de Google, mais aussi l'expert officiel du numérique au Vatican.
Absolument, le frère Eric Salobir.
Le community manager du Vatican.
Le pape a un conseiller geek, figurez-vous, il est français, il s'appelle le frère Eric Salobir, c'est quelqu'un tout à fait fascinant, et donc il va venir dialoguer avec le président de Google Europe autour de la question des réseaux sociaux.
Je ne sais pas si vous avez le moment exact en tête, Franck, pour ce rendez-vous, mais bon, de toute façon, il y a le site internet pour justement retrouver tout ce qui va se passer. Et puis, bien sûr, notre invitée, Nathalie Bondil, qui va participer à l'un des rendez-vous, puisque vous êtes directrice et conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, Nathalie Bondil.
Oui.
Et dans le cadre du Monde Festival, eh bien, vous allez participer à un débat sur l'avenir des musées.
Oui.
Alors ça, c'est intéressant. Avec cette question, à quoi sert un musée ? Et moi, j'ai trouvé la question formidable, parce que finalement, quand on va dans un musée, on se pose quasiment jamais la question. C'est vrai, à quoi ça sert ? On va pour voir.
La bonne façon d'y aller.
Ouais. Pourquoi vous avez envie d'en discuter au fond alors ?
Parce qu'en fait, je rejoins ce que dit Franck pour sur la question de l'amour, de l'émotion, qui dit quand on parle beaucoup d'intelligence artificielle, donc évidemment, on se pose la question sur ce qu'est l'intelligence émotionnelle, ce qu'est notre être en tant qu'être sensible, ce qui nous différencie finalement d'un robot. Et du coup, le musée donne à aimer, donne à apprécier, donne à ressentir. On est passé donc d'une période où, à l'époque de Descartes, on imaginait « je pense, donc je suis ». Maintenant, donc, on est davantage dans le « je ressens, donc je suis ». Et les neurosciences, justement, ont leur place dans les musées parce qu'ils établissent des passerelles entre notre être culturel, notre être cognitif et notre être sensible et émotionnel.
Ouais.
Et donc les musées ont absolument leur place, comme je dirais les arts en général et la culture, pour... justement s'adresser à toutes sortes d'enjeux que nous vivons au quotidien.
Franck Nouchi.
Pour répondre à votre question, Mathieu, il suffit d'aller au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Vous y allez une fois, vous vous posez immédiatement la question, vous qui avez l'habitude des musées en France, mais qu'est-ce que c'est que ce musée incroyable
Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de si particulier ? Alors dites-nous.
Nathalie.
Oui, évidemment, je suis donc je l'aime de cœur. Donc, mais c'est vrai que c'est un musée que je pense comme étant un vecteur de progrès social qui doit être extrêmement connecté sur les contenus, sur la pertinence, sur les sujets de société.
Et comment ça se traduit alors concrètement le progrès social quand on va au musée des Beaux-Arts de Montréal ?
On parle d'émotion esthétique. Une émotion esthétique, qui dit esthétique, parle de sensation. Hein, donc et la beauté est elle-même reliée donc à notre désir de reproduction, à notre sexualité. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques. Et du coup, donc ce rapport que l'on a donc à l'émotion esthétique fait en sorte que on peut s'adresser donc à ce que nous sommes d'une autre façon que par l'histoire de l'art. Et les œuvres portent en elles-mêmes des univers. Vous pouvez très bien envisager cette bouteille plastique que j'ai devant mes yeux comme un objet de design industriel, mais ça peut être aussi donc un objet qui parle d'environnement, qui parle de chimie, qui a une histoire matérielle, une histoire sociale. Et pour moi, ce qui était très important, c'est de pouvoir ouvrir donc le champ d'interprétation, le champ de réflexion autour de ce que sont les œuvres d'art. Très généralement, on a tendance à vouloir les interpréter par le biais donc des spécialistes, de l'expertise, de l'histoire de l'art, alors qu'en fait donc on peut aborder donc les arts de toutes sortes de manières, et c'est la raison pour laquelle moi je travaille avec en fait, avec nos équipes, nous travaillons avec 450 associations, ce qui en fait est assez considérable.
Pour finalement quoi alors? Quel est l'intérêt de travailler avec ces associations?
C'est de dire, voilà, nous avons une plateforme avec des collections exceptionnelles, et donc vous avez des publics, vous avez des besoins, par exemple, vous travaillez avec... des personnes qui ont des problématiques d'anorexie ou de troubles alimentaires. Donc nos œuvres montrent des canons de beauté qui sont extrêmement différents suivant les siècles. Donc ça amène à un certain relativisme. Donc dans ces cas-là, donc nous avons un partenariat, une co-création, et ça c'est très important d'amener cette volonté de co-créer, hein, d'agir ensemble, et donc avec un institut qui est très spécialisé, avec un professeur qui est extrêmement reconnu, donc qui fait vraiment des, non pas de l'art thérapie, mais vraiment donc qui amène la recherche à un autre niveau scientifique. Et donc on a des groupes de jeunes femmes essentiellement, donc qui viennent au musée, qui vont faire par exemple, donc c'est un exercice d'histoire de l'art vis-à-vis donc de ce qu'elles voient et de ce qu'elles interprètent sur les tableaux, mais en même temps qui vont faire du body mapping et qui vont aussi manger dans le musée. Donc,
ça c'est vraiment un prolongement du musée. Totalement. Tel qu'on peut l'imaginer, c'est d'aller plus en direction finalement de ceux qui viennent voir, qui sont des acteurs donc,
voilà,
du musée.
Et d'ailleurs, bon là c'est un scoop, je le dis, mais c'est on va lancer donc une prescription muséale, donc c'est, avec l'association des médecins francophones du Québec. Exactement. Moi c'était mon but, c'était...
Et il va nous prescrire une séance au musée?
Absolument. Donc à partir du 12 octobre.
Très bonne idée.
Absolument.
Remboursé par la sécurité sociale canadienne ou pas?
Alors il y a pas, mais en fait ce sont des prescriptions que nous qui sont offertes par l'association, et effectivement pour moi, vous savez, il y a un siècle, le rapport que nous avions au sport et à l'exercice physique était un rapport de suspicion, était un rapport d'incompréhension.
On prescrit du sport d'ailleurs aujourd'hui.
Voilà,
hein.
on trouve des salles de gymnase donc dans toutes les écoles, donc, et il ne viendrait à personne l'idée de se dire que de ne pas faire de sport. Donc
on va prescrire du musée. Aucune...
Voilà, alors pour moi le but c'était de pouvoir être...
Vous lancez ça au Québec?
Au Musée des Beaux-Arts Montréal.
D'accord.
Absolument. Le 12.
Très bonne idée, Franck Nouchi.
Oui, ça nous a tellement plu, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, qu'on a décidé d'organiser aussi un monde festival à Montréal, au Musée des Beaux-Arts, qui aura lieu le 26 octobre.
Ah bah oui, mais nous aussi, on va organiser des têtes au carré à Montréal, au Musée des Beaux-Arts.
Absolument.
Mais je crois invitez-nous, on viendra.
Mais je crois qu'on rejoint tout à fait les thématiques actuelles, qui sont non plus très verticalisées, où on va séparer ce qui est de la culture de ce qui est des sciences. Parce qu'en fait, je travaille avec le scientifique en chef du Québec, et nous avons des amis communs autour de la table, donc qui parle de la culture comme étant aussi un élément et un terrain de bienveillance pour faire de la recherche. Ouais.
Bon, ça c'est un des thèmes évidemment qui seront abordés, hein, qui sera abordé donc à l'occasion du Festival du Monde. Donc c'est en ce moment, ça commence aujourd'hui.
Ça commence ce soir. Ça se prolonge demain et après-demain à Paris.
Donc il faut aller voir sur le site pour avoir tout le programme, lemonde.fr/. Festival.
Absolument.
Et on a tout le programme. Allez, dans un instant, autre exposition. Ce sera dans le Nord avec le coup de cœur de Sophie Bécherel. I wanna turn those blue lights into strobe lights, not blue flashing lights, maybe fairy lights, those blue lights into strobe lights, maybe even fairy. Don't you run when you hear the sirens coming, when you hear the sirens coming.
shadow shows no emotion, so what's even the fuss? But the face of your boy casts a darker picture of the red-handed act he's gonna whisper.
Milk blood, I'm sorry, cause I know you got my back. He was running, I couldn't think I had to get out of that.
Not long ago, you were miming to the shook ones. Now this really is part two, cause you're the shook one.
Hand you the tool as you question your friendship. Has men like you gonna make me a convict? Never love a felon when I've done nothing wrong. Dead on my hands, but I don't know where it's from. Oh, you got blood on your hands, but you don't know where it's from. You better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming, cause they will be coming for you. When you hear the sirens coming, better run when you hear the sirens coming. When you hear the sirens coming, the blue lights are coming for you. What have you done? There's no need to run. If you've done nothing wrong, blue lights are just pass you by.
Georgia Smith, c'était Blue Lights.
La tête au carré, le club.
Sophie Bécherel, votre coup de cœur du week-end nous emmène dans le Nord aujourd'hui.
Oui, au centre historique minier du Nord-Pas-de-Calais, dans une ville qui s'appelle Leeward. Alors je vais vous planter le décor, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas ce centre historique, qui est en fait un musée. Donc nous sommes sur le site de la fosse d'Éloi, une mine de charbon particulière, parce qu'elle a été installée un peu dans la campagne. C'est pour ça d'ailleurs que les mineurs y venaient à vélo. Elle a été exploitée pendant 40 ans seulement, de 1931 à 1971. Et à sa fermeture, le site a donc été transformé en musée. Un musée très riche, très agréable, où on peut se projeter facilement dans le quotidien des mineurs, puisqu'il reste énormément de bâtiments, même d'objets, toutes les lampes des mineurs, c'est une salle absolument extraordinaire. Donc beaucoup d'objets, tout ça s'est montré dans les expositions permanentes, mais donc tous les deux ans, les responsables du musée proposent une exposition temporaire qui fait le point sur une question précise. Et donc, cette fois-ci, c'est le cas de Ouyouyouy qui s'intéresse à la santé des mineurs. Oui,
c'est
un titre humoristique,
c'est un très bon titre.
C'est pas taiseux, mais ça fait une question très très importante. Et d'ailleurs, dans le cahier des charges des scénographes, il y avait pas de blanc, pas de vert, pas d'ambiance clinique, voyez, ou hôpital. Ouais. Il fallait que ça flash, et c'est vrai que dès qu'on entre, c'est un petit peu comme à France Inter, c'est tout rouge. Virginie Malolepsi, pourquoi ce choix? Et puis la santé des mineurs, effectivement, je disais, ça concerne énormément de gens dans votre région.
Alors, pourquoi ce choix? Tout simplement, quand on parle de santé et de maladie, tout le monde imagine un cabinet médical, les vieux hôpitaux des années 50-60, un peu vert, un peu blanc, et le sujet étant déjà tellement grave, tellement dur à traiter, parce que parler de maladie, c'est difficile, mais c'est surtout parler d'hommes et de femmes qui ont souffert pendant trois siècles à cause de leur métier. C'est pas rien non plus. Donc l'idée aussi peut-être, d'avoir un titre qui pouvait interpeller, d'où ce ouille, ouille, ouille. Alors on le prononce comme on veut, avec un H bien sûr pour le premier ouille, donc le charbon. Et puis essayer de donner des couleurs, de la couleur dans la scénographie, de manière à ce que le public se sente bien, se sente dans une atmosphère un peu plus chaude que ce vert ou ce blanc, pour pouvoir effectivement se plonger dans les objets, les documents et surtout les différentes thématiques que nous abordons.
Alors effectivement, c'est pas très drôle, hein, les maladies des mineurs, enfin les maladies associées à la mine, ce sont évidemment les maladies respiratoires associées au charbon ou à la silice. Et de façon surprenante, on pourrait penser que plus on remonte dans le temps, plus il y a eu des malades de ces maladies dues au charbon ou à la silice. Et en fait, non, on s'aperçoit que c'est entre deux guerres qu'on assiste à une explosion de ces maladies pulmonaires. Pourquoi ?
Tout à fait, véritablement. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, l'exploitation commençait au XVIIIe siècle. On travaille de façon, alors tout le monde aura le cliché de Germinal, bien évidemment, au pic et à la pioche. Au pic et à la pioche, on n'a pas forcément énormément de poussière qui se développe. À partir du moment où on va introduire le prolongement du bras de l'homme et de la main de l'homme avec une mécanique
et notamment des marteaux piqueurs, on va produire une poussière extrêmement importante dans un milieu déjà hostile à la base, hein, chaleur, humidité, pénombre, et puis de la poussière de façon exponentielle. En 20 ans, on va passer de 15% de marteaux piqueurs ou perforateurs à 96% de la production avec ça. Quand vous avez 140 000 personnes qui travaillent dans notre bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, vous imaginez le nombre de malades potentiels.
Comment est-ce qu'on montre de façon parlante cette action des poussières sur les poumons? Vous avez trouvé un dispositif très simple, mais...
Alors nous avons imaginé une cage à poussière, donc une sorte de bocal, tout simplement, dans lequel un ventilateur va diffuser de la poussière quand on appuie sur un bouton, ce qui permet de se rendre compte effectivement de l'environnement dans lequel se trouvait... les mineurs.
On va écouter un document justement qui date de l'année 1973 et qui concerne le travail des mineurs au temps des compagnies avant la Première Guerre mondiale.
À l'arrivée au fond, la marche commence vers le chantier. Les ouvriers eux-mêmes sont groupés en équipes de 3 à 6 hommes. À coups de pic, les piqueurs et les haveurs abattent le charbon. Les pelleteurs emplissent les bennes. Les galibots, gamins ou très jeunes filles, les conduisent vers les trains de wagonnets que traînent les chevaux jusqu'au puits de remontée. À 8 heures du matin, le travail s'arrête. On fait briquer, c'est-à-dire qu'on déjeune d'une double tartine de pain garnie de beurre ou de fromage. Les mineurs auront passé en tout 9h30 au fond de la mine. À 13 heures, c'est le retour au coron où attendent les femmes et la grande bassine remplie d'eau chaude où on va se laver. À ce rythme, le mineur, descendu dans la mine à l'âge de 13 ou 14 ans, atteint rarement l'âge de la vieillesse. La mine tue, lentement ou soudainement, par la maladie ou par l'accident. Le mineur est toujours à la merci d'une maladresse, d'une imprudence ou de la fatalité.
Vous comprenez pourquoi il fallait des couleurs pour parler de ce sujet. Alors on entend parler de cette bassine qui donc est à la maison et avec laquelle le mineur va se laver. Et on voit dans votre exposition qu'en fait il y a eu un changement parce que les sociétés minières ont trouvé une solution. Elles ont compris à quel point il ne fallait pas rapporter de poussière à la maison pour ne pas contaminer éventuellement plus de personnes.
Tout à fait. Et puis tout simplement parce que les sociétés du 19e siècle et notamment dans l'industrie en France et un petit peu partout, vont mettre en place des principes d'hygiène, de salubrité dans le quotidien, et notamment créer dans l'entreprise, dans chacune des fosses, des salles de bain, alors que l'on appelle dans le Nord-Pas-de-Calais les salles des pendus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à venir découvrir celle du
la
centre historique minier.
Voilà.
On peut en savoir plus quand même dès maintenant.
Alors en fait, les mineurs se déshabillaient. Voilà. Et accrochaient en l'air leurs tenues. Et vous voyez, du coup, avec une hauteur phénoménale, les tenues pendre.
Voilà. Et ce qui permettait, effectivement, à partir, alors, chez nous, à partir de 1880, et rendu obligatoire par la loi en 1911, de sorte de ne pas ramener de poussière à la maison.
Est-ce que les mineurs peuvent échapper à la maladie pulmonaire? Est-ce qu'on a des statistiques sur le nombre qui a été victime d'une maladie longue durée ou qui s'est déclarée tardivement? Est-ce qu'on sait ça?
Alors ça, c'était tout notre questionnement. On a échangé là-dessus,
ouais,
Sophie.
Hein. Oui.
Voilà. Alors c'est très compliqué parce que la silicose, qui est une maladie professionnelle extrêmement importante, qui est toujours une des plus importantes maladies professionnelles dans le monde aujourd'hui. Ça, il faut bien le savoir. Cette maladie n'a été reconnue comme maladie professionnelle en France qu'en 1945. Donc les statistiques ne commencent qu'à cette date-là. Et on sait que pour les mineurs français, entre 1945 et 1987, la statistique évoque 40 000 morts. Les chercheurs, les historiens, proposent plutôt 80 000 à 120 000 morts sur la même période. Mais ça ne concerne que 45-87. Or, on sait très bien que l'entre-deux-guerres a été, de façon considérable, à augmenter les types de maladies pulmonaires.
Alors, parce qu'il faut maintenir les mineurs en bonne santé, évidemment, les sociétés de mines ont tout intérêt à le faire. Elles ont développé des systèmes de prévention quand même assez tôt dans l'histoire.
Très, très vite, avant même qu'une législation se mette en place, notamment en 1894, avec les caisses de secours obligatoires, les compagnies minières du Nord-Pas-de-Calais avaient créé des sociétés de secours dès le début du 19e siècle. Alors très intéressant, hein, à parité égale entre l'entreprise et les ouvriers qui payaient, pour avoir un système de soins et créer un véritable infrastructure dans tout le bassin minier.
Virginie Malo-Lepsy, on parlait tout à l'heure avec Nathalie Bondil du musée, hein, et la façon dont on pouvait aujourd'hui justement faire appel même à ceux qui viennent le voir. Est-ce que vous avez eu une initiative justement en ce sens avec les mineurs ?
Alors nous, c'est vrai que notamment sur les maladies d'Alzheimer, on a eu des travaux qui ont été faits comme ça au musée et à l'extérieur du musée, le hors les murs. Elle est avec des expositions itinérantes, avec des médiateurs, travailler dans des maisons de retraite, auprès d'associations d'Alzheimer, de sorte de faire travailler la mémoire pour rappeler les souvenirs aux anciens et à ces malades.
Effectivement, on a aussi nous avons des partenariats avec le centre d'excellence sur la gériatrie à McGill pour
au Québec et donc à Montréal.
À Montréal. Pour inviter donc des personnes, des seniors qui viennent au musée, donc soit dans l'exercice de leur faculté mentale et notamment avec les associations liées à Alzheimer, mais aussi tout simplement pour faire de l'exercice physique, parce que quand vous êtes au Québec, il fait très froid, les trottoirs sont glissants, et pour des personnes âgées, eh bien c'est à la fois donc très intéressant intellectuellement et physiquement utile de pouvoir marcher donc tout simplement dans des salles d'un musée, en prenant les escaliers, évidemment.
Bon, on va demander aux médecins de faire des prescriptions pour aller voir l'expo. Ouyouyouy aussi. Hein. Alors, c'est en ce moment, Sophie ?
Oui, c'est en ce moment et jusqu'au mois de mai, je ne me trompe pas.
19 mai.
19 mai, voilà. Et vous aurez donc l'occasion de voir quelques-uns des 15 000 objets qui sont dans les collections de ce musée, des 200 km d'archives, des films aussi. Il y a eu des films absolument extraordinaires. Moi, je vous invite à aller voir cet ensemble que j'ai découvert personnellement. Et l'exposition temporaire sur la santé et le centre historique minier, c'est vraiment une découverte.
Le Ward, donc, dans le
Les
Nord.
Ward.
Le Ward, pardon. Le Ward. Désolé à tous ceux qui nous écoutent et qui habitent là-bas. En tout cas, toutes les infos sont sur le site internet et on vous retrouve, Sophie, dans un instant pour l'agenda scientifique du week-end.
Tiens, le 9 et le 3 sur le drapeau. 9-3 Empire. Si tu savais pas, maintenant tu sais. L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé.
J'arrive des terres sur le beat, pas de limite, du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême et tous encore demander qui c'est qui nique. On a juste planté les graines gros. Ça pousse, pousse, pousse. Ça fourmille de partout, ça sent pas des parcours. Ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, ne cherche pas d'éthique. C'est la même dans ton quartier mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous on vise pas le sol, on envoie plein les titres depuis le temps. Qu'on arrache tout c'est tiltant. Je vous avoue que pour nous c'est trippant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai ça reste excitant. Sensei connexion, non t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son, je crois qu'il peut le même dabé. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé.
L'envie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau.
On arrache ta coupe, on la fêtera pas. Tout ramener à la TS, on l'arrêtera pas. Je vais te refaire une émeute pour une belle capta. Et je me souviendrai de rien comme ma dernière rapta. C'est dans le petit filet qu'on te l'a remplacé. Je roule comme les grandes athées avec les petites massas. Plus personne à niveau, je vais m'auto-remplacer. Je viens du 9, Ramika, ça c'est pas tout cassa. Pas de lendemain, je suis bloqué dans les nuits passées. Un moindre mot comme l'avenir des petits tracés. Des mutineries à boire, des promos sur la mort. Des ventes de flash, des fusillades à prix cassé. C'est la rue, gros, c'est pas Netflix. Fermez ta bouche, tenir le regard quand t'es fixe. T'es chaud d'aller au charbon, t'explique en douque. Fianné sur l'envie et suprême l'icomo.
On va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Moi chez nous c'est pas comme les autres.
C'est Fianzo, Fianzo, Fianzo et le Nico Mouk. Association Casos, Casos, ouais c'est qui tout double. Ouais c'est qui tout double. Sensei Lester.
Mais non, 9-3 Connection, 9-3 Empire.
croix sur le drapeau. Moi chez nous c'est pas comme les autres.
Sur le drapeau, NTM et Sofiane.
Le club sur France Inter.
Marie-Odile Monchicourt dans le club de la tête au carré, journaliste scientifique. Et c'est vous qui avez eu l'idée de ces Labo Origins, qui sont des spectacles scientifiques. Comment on les présente exactement, Marie-Odile?
C'est-à-dire que je mets sur scène, enfin je propose à des scientifiques et des artistes d'œuvrer ensemble, d'unifier leurs talents pour faire passer des messages quelquefois un peu complexes pour le public qui n'a pas l'habitude d'entendre parler de bosons de Higgs ou de physique quantique ou d'infiniment grand ou d'infiniment petit.
Donc là, vous avez
petit.
Réussi l'unification, finalement.
Bah, c'est ce que j'essaie de faire depuis, ça fait maintenant 4 ans quoi, que je travaille
sur... Je me posais la question, ouais.
Et alors, tout à l'heure, je regrette parce que quand je vous ai dit bonjour, oui, tous mes copains sont là. Je ne veux pas exclure personne. Bien sûr que c'est pas tous mes copains. Mais c'est beaucoup de ces scientifiques qui m'ont aidé finalement à expérimenter cette chose qui est de mettre en commun le savoir, la connaissance, quelquefois très complexe et difficile à aborder, pour que le public rentre dans ces discours sans se dire je comprends pas, mais au contraire l'utilise pour qu'eux-mêmes s'envolent dans leur propre imaginaire.
Donc c'est un objet culturel et scientifique non identifié quand même.
Parce absolument.
Que, mais alors, comment s'est préparé ce labo? Parce que là, vous avez donc Jean-Claude Amezen, Jean-Pierre Bibring, Étienne Klein, Pierre-Henri Gouillon, Emma Lacloune, Maya Barou, qui est la fille de Pierre Barou. Comment vous réunissez tous ces gens sur une scène? C'est préparé à l'avance? C'est de l'improvisation totale? Qu'est-ce qui se passe là? Parce que je vous connais, vous êtes capable de faire un truc totalement foutraque improvisé.
Oui, ça c'est
vrai. Et faire en sorte que ça marche quand même.
Non, là c'est vrai qu'on a un plateau tout à fait exceptionnel. Et que j'ai un peu la trouille, pour vous dire la vérité, parce que gérer une douzaine de personnes, dont 8 scientifiques qui ont tous énormément de choses à dire et qui adorent
parler. Hein. Surtout pas laisser la parole aux autres.
Donc effectivement, faut une préparation, quoi. Faut une préparation assez rigoureuse, assez rigoriste. Mais alors les réunir, moi c'est mon rêve de les réunir. Mais
pour les répétitions.
Mais les scientifiques, soit ils sont au Japon, soit ils sont à Moscou, soit ils sont aux États-Unis, ou soit ils sont des conférences. Enfin, ils sont impossibles si vous voulez à réunir ensemble. Donc c'est beaucoup la préparation, c'est beaucoup les artistes.
Ouais.
Donc il y a un thème. Et puis, il y a des scientifiques qui ont l'extrême gentillesse de me dire comment ils vont opérer, ce qu'ils vont dire, quoi.
Ouais. Au moins de vous donner le sujet, ils sont bien
sur
aimables.
Sur le sujet, oui.
C'est ça, histoire de vous donner un peu moins de nuit blanche.
Et donc, tout l'art de cette chose, c'est que ensemble, ça soit une fête, un plaisir autour de la connaissance, autour des artistes aussi qui vont amplifier tout ça. En général, la magie se fait. Et ils s'amusent.
Ouais, entre les clowns, les physiciens des particules, les percussionnistes par exemple, les flûtistes, les chanteurs, les pratiquants du yoga aussi, c'est ça?
Bah oui, puisque c'est la quête de l'unité, le thème. Donc on ne peut pas mettre quelqu'un qui passe sa vie à chercher l'unité à l'intérieur de lui-même.
Nathalie Bondil qui souhaite réagir.
Oui, je trouve ça formidable parce que c'est exactement le type de laboratoire décloisonné qui fait que les meilleures idées jaillissent et justement on est au-delà de cette séparation très dichotomique entre d'un côté les sciences, d'un côté la culture. On a un comité art et santé qui regroupe des personnalités extrêmement éminentes qui viennent parfois d'ailleurs des sciences dures et qui se posaient au départ la question mais qu'est-ce que je fais dans un musée comme comité aviseur? Il a même fallu que je convainque un peu le conseil d'administration du musée pour dire non, on va aller... Et en fait, quelques années plus tard, c'est extraordinaire. On a Isabelle Pérez qui vient de publier un livre sur l'apprentissage de la musique avec le cerveau, qui collabore à nos projets, et on est dans la musicothérapie, donc tout cela dans un environnement culturel et
Là c'est ce qui va se passer donc à Courbevoie, puisque ce sera vendredi 12 octobre, Marie-Odile, au centre événementiel de Courbevoie.
Dans le cadre du festival Atmosphère, je tiens quand même...
Très beau festival,
parce qu'ils m'aident énormément et c'est un très beau festival. Allez-y, tout est gratuit. Il va y avoir des films pendant 4 jours tout à fait exceptionnels et inédits, souvent.
Bravo.
Donc, oui. Moi, je ne suis pas responsable du festival. Les labos,
ça me suffit. C'est gratuit aussi pour le Labo Origins ou pas?
Oui, tout est gratuit.
Bon, on peut s'inscrire avant.
On passera un petit chapeau à la fin parce que c'est vrai qu'on est complètement fauché, quoi. Ouais.
Bon, alors en tout cas, on peut se renseigner aussi sur la page Facebook du Lab Origins,
hein,
parce que vous avez même pris des photos là pendant l'émission pour le mettre sur la page Facebook. Donc Jean-Claude Amezen, Étienne Klein, etc., Spiro, Bibring.
Ils sont tous sur scène.
Voilà, ils vont tous raconter leur science dure, hein, la plupart d'ailleurs. Hein.
C'est ça. Alors par exemple Amezen. Quand je lui ai dit, c'est le thème de la grande unification. Alors, c'est devenu la quête de l'unité, parce que la grande unification, c'est ça qui, au départ, qui a été l'idée, étant donné que le thème du festival, c'est du rêve, du rêve, du rêve.
Ouais.
Donc, je me suis dit, quel est le rêve finalement qui obsède un peu les scientifiques? Et il y a un des rêves qui les obsède, c'est de réunir la théorie de la physique de l'infiniment petit ou physique quantique et la théorie de l'infiniment grand ou physique gravitationnelle. Et ils n'y arrivent pas. Ça fait des décennies qu'ils essayent. Donc
c'est ça la grande unification, parce que ça fait un peu mamamouchi, hein, comme concept. Mais
d'ailleurs,
grand mamamouchi.
Mais je n'insiste pas parce que c'est vrai que on a tendance à aller vers ce grand mamamouchi, mais là on reste vraiment scientifique. Hein. Et puis on s'est rendu compte qu'en finalement ce rêve d'unité concerne absolument tout le monde, même l'être humain. C'est pour ça qu'il y a une yogi et puis toutes les disciplines scientifiques. Parce que quand j'en ai parlé à Amezen, que je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait la grande unification? Tout de suite, il est parti, mais la grande unification en biologie, ça fait longtemps qu'elle est faite. Ah bah, bon.
pardon.
donc tu viens, il m'a dit oui, avec bonheur. Ouais. Donc voilà, bon, cette année...
On a envie de venir, nous aussi. Hein,
donc venez.
Vendredi prochain, 12 octobre. Hein,
oui.
Parce qu'on a parlé beaucoup des rendez-vous de ce week-end, mais là c'est la semaine prochaine, et c'est donc à Courbevoie en région parisienne, ce sera à 20h30 pour ce nouveau Lab Origins avec toute l'équipe de Marie-Odile Monchicourt. C'est noté, on met tout ça en lien sur La Tête au Carré. Et nous partons pour Saint-Dié des Vosges. Bonjour Gilles Fumet, vous êtes en ligne avec nous.
Bonjour.
Vous allez bien?
Oui, très bien, il fait beau et les Vosges sont rayonnantes.
Vous êtes président de l'association du Festival International de Géographie de Saint-Dié. Ça démarre aujourd'hui jusqu'à dimanche. Le thème de cette année, la France demain. Alors, parlez-nous un peu de ce festival et de cette déclinaison de la thématique. Là, qu'est-ce qui va se passer alors?
Ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de faire comprendre aux gens comment ils vivent, ils peuvent vivre dans ce chamboulement administratif, parce qu'en quand même en moins de 2 ans, le nombre des régions a été divisé par 2, une vingtaine de métropoles ont été créées, et les gens quand même se demandent où vais-je accoucher, dit la future maman, et ma fille aînée devra-t-elle prendre le bus pour aller au collège? Et mes vieux parents, qu'est-ce que je vais en faire, et la perception, etc. Donc en fait, on a aujourd'hui un vrai chamboule-tout qui est en place et sur lequel on va travailler, parce que aujourd'hui, effectivement, on se rend compte que les populations sont de mieux en mieux formées et qu'on arrive à fermer des aéroports, des projets d'aéroports, qu'on conteste des sites d'enfouissement des déchets nucléaires. Donc en fait, il y a une forme de démocratie qui est en train de se mettre en place avec ces nouvelles régions, et donc c'est un petit peu ça qu'on va travailler pendant les 3 jours là.
Donc ça veut dire que le territoire change considérablement en ce moment?
Complètement. Nous allons présenter d'ailleurs une carte qui a été offerte aux députés en 1789 à l'Assemblée nationale, lorsqu'il a fallu changer la maquette administrative de la France, qui était illisible avec des diocèses. Et puis ce système qui est arrivé, qui a abouti à la départementalisation. Je crois qu'on est aujourd'hui dans quelque chose d'un peu typique à ceci près que bon, il y a beaucoup de choses qui sont dématérialisées et que le numérique va changer. Mais c'est vrai que notre rapport au territoire change beaucoup et panique beaucoup de gens, parce que je crois que le sentiment d'isolement dans les campagnes, la domination des villes sur la périphérie, tout ça évidemment ça crée des problèmes qui se retrouvent exprimés dans les urnes, pas toujours comme certains politiques le voudraient.
Oui, parce que ça c'est un vrai sujet qui passionne les Français aussi, hein, les questions de territoire quand même aujourd'hui. Hein.
Oui, oui, ben ça c'est une vieille histoire, mais c'est une vieille passion, parce que les Français sont restés des gens vivant à la campagne jusque dans les années 50. Hein, et donc, quand bien même manifestent-ils leur attachement en ayant le record mondial des résidences secondaires,
oui.
Globalement, ils sont quand même devenus citadins, et là, pour eux, c'est le grand écartèlement... pose vraiment des problèmes.
Alors le thème c'est donc la France demain, effectivement, et les pays invités sont les pays nordiques. Alors comment vous faites le lien avec tout ça finalement ?
Alors en fait, ces pays nordiques, c'était l'idée de dire, avec le réchauffement climatique, il y a des pays qui commencent à émerger, qui commencent à inventer une manière d'être qui n'est pas seulement, d'aller voir le cercle polaire ou d'aller dans la neige, mais qui développe un regard complètement différent. Tourisme complètement différent, et plutôt que de prendre un pays comme la Suède ou le Danemark, on a pensé que l'ère culturelle scandinave, en y ajoutant l'Islande et la Finlande, ça donnait quelque chose qui allait permettre de comprendre, par exemple, pourquoi ces petits pays font des polars qui intéressent le monde entier. Quand même,
ah oui, les Islandais en particulier, oui.
Oui, on va avoir le Norvégien Gunnar Stalesen ou le Danois Michael Enger qui vont venir
aussi, ouais.
Parler au Salon du Livre et qui vont expliquer un petit peu dans quelle mesure finalement nous prenons acte de cette fascination que les Scandinaves ont pour leur espace et qu'ils expriment par leur polar. Hein, ça c'est...
Alors c'est Laure Adler, voilà. D'ailleurs la présidente hein, du FIG, parce qu'on dit
voilà,
FIG,
c'est Laure Adler, oui.
Festival International de Géographie, et puis Thierry Paco, philosophe de l'urbanisme, qu'on avait reçu déjà dans La Tête au Carré, qui sera le grand témoin, je crois. Hein.
Voilà, on a effectivement des gens qui sont passionnés par la géographie, mais qui ne sont pas forcément des géographes, qui vont nous donner leur regard de professionnels. Vous avez des journalistes, philosophes, parce que on a besoin justement de voir un peu comment toutes ces angoisses, toutes ces questions que pose la collectivité aux politiques et peut-être, travailler par les géographes.
Avec également Eric Futorino, qui est le président lui du Salon du Livre, Alain Mabankou qui sera là aussi pour présenter ses ouvrages.
On a Olivier Weber, Benoît Duterte, Jean-Christophe Bailly, on a toute une série de Aurélie Filippetti, des gens qui vont venir parler à la fois de leurs livres et puis évidemment de ces questions qu'on vient d'évoquer.
fig.saint-die-des-vosges. Ben oui, dites donc, il faut cliquer dessus directement en allant sur La Tête au Carré, c'est presque plus simple pour avoir tout le programme du FIG qui commence donc aujourd'hui jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Gilles Fumet et bon festival à vous et bonjour à toutes vos équipes.
À
bientôt.
Au revoir.
Et nous allons nous quitter dans quelques instants, non sans avoir pris connaissance des rendez-vous scientifiques que vous nous conseillez, Sophie Bécherel. Que se passe-t-il ce week-end ?
Eh bien, voilà que revient la fête de la science, 27e édition du nom. Ouais. Donc c'est bien connu maintenant du grand public, cette semaine de la science. Ça démarre demain. Ça donne l'occasion évidemment d'aller à la rencontre des chercheurs de tout poil, d'expériences ludiques, mystérieuses, de s'offrir une visite de labo en petit groupe ou bien d'assister à une conférence. Le principe est immuable, hein. On répond à la curiosité du public, quel que soit son niveau de connaissance, pour savoir ce qu'est la physique quantique, par exemple, dont parlait Mario Delmochicourt, ou bien ce que cherchent les archéologues, ou bien ce que les maladies génétiques vont réussir à soigner les maladies orphelines. Enfin, il y en a pour tous les goûts, et surtout pour toutes les formes, car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les formes d'expression de la culture scientifique explosent en ce moment. Donc, il y a les youtubeurs, il y a les pièces de théâtre, les BD, enfin vraiment, ça se diversifie, et avec une très grande qualité. Et donc, tout est possible, tout le programme est sur le site de La Tête au Carré, le site notamment de la fête de la science, on vous donnera ça. Cette année, il y a quand même une thématique qui ressort, c'est la lutte contre les idées reçues en science, les infox. Je ne sais pas si vous avez vu que c'était le nouveau mot qui avait été adopté.
À la place de fake news hein.
Exactement.
Les infox.
Les infox.
Ah, comme le fox terrier alors.
Voilà.
Très bien, ça me plaît.
Donc ça vient d'être décidé par l'Académie. Donc, théorie du complot, donc le ministère de la Recherche propose par exemple un parcours de micro-learning. Vous vous inscrivez sur Internet et ensuite vous recevez recevrez régulièrement des leçons d'esprit critique dans votre boîte mail. Et puis, voilà, vous procéderez selon la méthode scientifique, en formulant une hypothèse, en expérimentant, en tirant des conclusions. Il y a aussi un kit proposé aux bibliothèques pour faire un escape game, lui aussi sur le thème des idées reçues. Vous le téléchargez et voilà, vous faites ça. Et puis alors, une fois n'est pas coutume...
Vous avez 15 secondes, Sophie. Hein.
Et ben pour tout achat d'un livre de science dans une des 250 librairies partenaires, vous aurez droit à un cadeau. 25 vraies fausses idées en science. Voilà, on n'a pas le temps de jouer au petit jeu, mais on vous parle là de voilà, est-ce que par exemple on descend du singe, est-ce que qu'est-ce que je vous trouve, et ben voilà, humains et maladies, humains et animaux ont-elles les mêmes maladies, les femmes sont-elles plus intuitives que les hommes,
on saura tout donc en allant sur le site de la fête de la science.
Maigrir,
très bien,
plein de choses.
Et bien voilà, on met toutes les infos et n'oubliez pas la fête de la science, c'est demain jusqu'au 14 octobre. Merci beaucoup à toutes et à tous, bon week-end.